إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue donc ce soir la lecture de cet épître, les conditions de la prière de l'éminent Cheikh, l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. On a vu dans les assises précédentes les 6 premières conditions de la prière. Et on va voir dans l'assise de ce soir, incha'Allah ta'ala, les 3 dernières que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnées. Il dit, rahimahullah, الشرط السابع دخول الوقت. La 7e condition, c'est-à-dire la 7e condition de la prière, est l'entrée du temps. Il fait donc partie des conditions de validité de la prière de les accomplir en leur temps. C'est-à-dire que tu aies la certitude que le temps soit entré, que ce soit par l'observation ou par l'information d'une personne digne de confiance ou en s'appuyant sur un calendrier basé sur une méthode confirmée par des gens de science et de confiance. Et si l'entrée du temps est une condition de validité de la prière, cela signifie qu'il n'est pas permis d'accomplir la prière avant l'entrée de son temps. Car cette prière, celle qui est accomplie avant l'entrée du temps, elle n'est pas valide. Et celui qui a fait la prière avant son temps, il est obligatoire pour lui de recommencer cette prière une fois que son temps est entré. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, وَالدَّلِيلُ مِنَ السُنَّةِ حَدِيثُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. La preuve de la sunna, c'est-à-dire concernant cette condition, est le hadith de Jibril عليه السلام, dans lequel il est rapporté qu'il a dirigé la prière au prophète صلى الله عليه وسلم au début du temps et une autre fois à sa fin, c'est-à-dire à la fin du temps. Puis il a dit, « Ô Mohammed, la prière est entre ces deux moments. » Ce hadith que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné, il est rapporté par plusieurs compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et parmi eux, Jabir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhuma. Il se trouve dans les recueils de hadith de Abu Dawud, At-Tirmidhi et An-Nasa'i, rahimahumullah ta'ala. Donc Jibril, alayhi salam, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui enseigner les horaires de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était derrière lui pour prier. Et les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils priaient quant à eux derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait cela le premier jour en venant pour chaque prière au début de son temps. Et le deuxième jour, il a fait cela pour chaque prière en la fin de son temps. Puis il lui a dit, « Ô Mohammed, la prière est entre ces deux moments. » C'est-à-dire qu'il lui a enseigné le début et la fin du temps de chaque prière. Et parmi les hadiths les plus explicites au sujet des temps de prière, il y a celui rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu ta'ala anhuma. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Le temps du dhuhr commence au déclin du soleil, c'est-à-dire lorsque le soleil quitte le méridien et commence à redescendre, jusqu'à ce que l'ombre de l'homme soit égal à sa taille, tant que le temps de l'Asr n'entre pas. Le temps de la prière de l'Asr est jusqu'à ce que le soleil jaunisse, c'est-à-dire de la fin du temps du Dhuhr jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Le temps de la prière du Maghreb est jusqu'à la disparition du crépuscule. Le temps de la prière de l'Isha est jusqu'au milieu de la nuit et le temps de la prière du Sobh est du lever de l'aube jusqu'au lever du soleil. » Et ce hadith, comme on l'a dit, il est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Et dans celui-ci, on voit que les temps des 5 prières y sont exposés. Donc le dhuhr, il commence au déclin du soleil, c'est-à-dire lorsque le soleil commence à redescendre et se dirige vers l'ouest. Et à ce moment, commence à apparaître l'ombre de la personne en direction de l'est. Donc si tu regardes, tu verras que ton ombre le matin, elle est en direction de l'ouest. Et à partir du dhuhr, elle commence à naître en direction de l'est. Et elle va en grandissant jusqu'au Maghreb. Donc ceci est le temps du Dhuhr. Il commence au déclin du soleil. Et la fin du temps du Dhuhr est lorsque l'ombre de l'homme est égale à sa taille. Et à ce moment, entre le temps, de la prière d'Al-Asr. Donc dès que le dhuhr termine, entre le temps de la prière d'Al-Asr. Et la fin de la prière d'Al-Asr, elle est décrite dans ce hadith par le moment où le soleil jaunit. Et on voit donc que ce moment, il a lieu avant le coucher du soleil. Et il diffère selon les saisons durant l'année. Pourtant, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit « Celui qui atteint une unité de prière d'Al-Asr avant que le soleil se couche a certes atteint l'Asr. » C'est-à-dire, il a certes atteint la prière d'Al-Asr. Et ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala, d'après Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu. Donc comment on réunit entre ces deux hadiths? Les savants ont expliqué que le temps de la prière d'Al-Asr, il se divise en deux temps. Le premier temps, il commence du début de l'entrée du temps de l'Asr jusqu'à ce que le soleil jaunisse, comme dans le premier hadith. Son deuxième temps, c'est un temps de nécessité. Il commence au moment où le soleil jaunit jusqu'au coucher du soleil. Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie que le temps d'Al-Asr, il se divise en deux temps? Cela signifie que l'obligation est d'accomplir la prière d'Al-Asr dans son premier temps et qu'elle ne doit être repoussée en son deuxième temps qu'en cas de nécessité. C'est pour ça que les savants l'ont appelé le temps de nécessité. Donc c'est une erreur de repousser la prière d'Al-Asr sans raison. Car le temps où tu dois accomplir la prière d'Al-Asr, c'est dans son premier temps, avant que le soleil jaunisse. Et son deuxième temps, il t'est permis d'accomplir la prière d'Al-Asr dans celui-ci, seulement en cas de nécessité. Tu avais une occupation de laquelle tu ne pouvais te détacher avant ce moment-là, alors dans ce cas, il t'est permis d'accomplir la prière d'Al-Asr dans son temps de nécessité. Mais s'il t'est possible d'accomplir la prière dans son premier temps, alors tu dois t'empresser de prier dans le premier temps de la prière d'Al-Asr. La prière d'Al-Maghrib, elle commence quant à elle au coucher du soleil. Dès que le soleil se couche, que le disque solaire disparaît complètement, alors entre le temps de la prière d'Al-Maghrib et termine ainsi le temps de la prière d'Al-Asr. Et le Maghrib, son temps continue jusqu'à la disparition du crépuscule, c'est-à-dire les lueurs du soleil que tu aperçois à l'horizon, dès qu'elles disparaissent complètement entre le temps de la prière d'Al-Isha. Et ici, il faut faire attention à l'erreur que commettent certaines personnes, notamment à cause des calendriers. Et ceci a surtout lieu en hiver. En effet, nombre de calendriers, ils déterminent la prière d'Al-Isha 1h30 après la prière d'Al-Maghrib tout au long de l'année. Donc en hiver, si tu regardes, tu verras que le crépuscule, il disparaît avant l'heure indiquée, qui est 1h30 après la prière d'Al-Maghrib. Donc il faut faire attention à cela et ne pas retarder la prière d'Al-Maghrib jusqu'à l'heure indiquée d'Al-Isha sur les calendriers. Et quoi qu'il en soit, ce qui est préférable et meilleur pour le musulman, c'est d'accomplir le Maghrib dès l'entrée de son temps et de ne pas la retarder. Mais si tu es pris par une occupation qui t'empêche de la prier au début de son temps, tu dois faire attention à cela et ne pas penser que son temps dure forcément jusqu'à l'heure d'Al-Isha indiquée sur le calendrier. Je précise spécifiquement en hiver, car en été, malheureusement, c'est le problème inverse qui se pose. Quant à la prière d'Al-Fajr, elle commence au lever de l'aube véridique et elle se termine au lever du soleil. Une fois que le soleil est levé, le temps d'Al-Fajr est terminé. Ensuite, le cheikh, il dit, rahimahullah, wa qawluhu ta'ala, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Il dit à la parole d'Allah, c'est-à-dire également parmi les preuves concernant le fait que l'entrée du temps de prière est une condition de validité de la prière. Il dit, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont la traduction des sens rapprochés, la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. C'est-à-dire une obligation en des temps précis. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas laissé libres de prier comme bon nous semble, à n'importe quel moment. Mais il a prescrit des temps qu'il est obligatoire de respecter. Et on a vu qu'il est interdit de faire la prière avant son temps, car elle n'est pas valide. Et de la même manière, il n'est pas permis de faire la prière après son temps, lorsque la personne n'a pas d'excuse. Comme on a vu dans le hadith lors du premier cours, celui qui dort ou qui oublie une prière sans avoir été négligent. Alors celui-ci, il a une excuse et il accomplit la prière dès qu'il s'en souvient ou dès qu'il se réveille. Mais celui qui n'a aucune excuse et qui fait volontairement sortir la prière de son temps. Il faut savoir que les gens de science, ils ont divergé à son sujet. Doit-il rattraper cette prière ou non? Car ce n'est plus son temps.
Son temps est passé et la prière, elle n'est pas légiféreur de son temps. C'est pour cela qu'ils ont divergé à ce sujet. Et ils ont même divergé sur le statut de cette personne. Est-il sorti de l'islam ou non par ce délaissement de la prière en son temps? On voit donc que c'est une chose très grave. C'est une chose à prendre au sérieux. Il ne faut pas être négligent à ce sujet. La prière, elle est obligatoire en son temps, en des temps déterminés. Et celui qui la retarde volontairement, alors le moins que l'on puisse dire sur lui, c'est qu'il est dans le péché. Et ni les études, ni le travail ne sont des excuses pour retarder la prière de son temps. Le verset, il est très clair. Il ne faut pas se laisser tromper par les imams de l'égarement qui trompent les gens, notamment les jeunes, en leur disant qu'il n'est pas grave de retarder la prière et qu'ils peuvent prier le soir, après le travail ou après les études en rentrant chez eux. Wallah musta'an. Wallah, ceci est très grave. C'est une grave erreur d'égarer les gens ainsi. D'autant plus que nombre d'entre eux, ils ne sont même pas convaincus de cela. Mais vous savez pourquoi ils disent cela? Seulement pour attirer les gens à eux. Car leur objectif aux gens de l'égarement, c'est quoi? C'est de réunir les gens. De réunir un maximum de personnes autour d'eux. Peu importe sur quoi il les réunit. Même s'il les réunit sur le faux. Donc il est prêt à leur dire cela, même s'il est convaincu que cela est faux. Pourquoi? Pour les réunir et les appeler à lui. Et je dis cela en connaissance de cause. Car il y a plus d'une dizaine d'années, il m'est arrivé de prier dans une mosquée dans laquelle l'imam était une personne qui s'affiliait à un des groupes de l'égarement, qui est le groupe des frères musulmans, l'Ikhwan al-Muslimin. Une fois la prière terminée, il a commencé à adresser aux fidèles une allocution, un rappel. J'étais assis en train de faire mes adhkar après la prière, et en parallèle, j'entendais ce qu'il disait. Et il commence son rappel en disant qu'il est obligatoire de faire la prière en son temps, et il a rappelé ce verset que l'on vient de lire. « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » Certes, la prière demeure pour les croyants une obligation en des temps déterminés. Donc je me suis dit, alhamdulillah, il rappelle cette chose importante aux fidèles, et c'est une bonne chose. Puis après cela, il leur dit, donc la prière est obligatoire en son temps, sauf pour celui qui a une excuse. Puis il cite parmi les excuses, les études et le travail. Donc à ce moment-là, je me suis levé, je suis sorti de la mosquée. Après cela, je suis retourné le voir pour lui parler à ce sujet. Et je lui dis, ne crains-tu pas Allah de dire aux gens qu'il leur ait permis de retarder la prière de son temps à cause des études ou du travail, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit la prière en étant déterminé, comme tu l'as si bien rappelé. Et quelle a été sa réponse? Il m'a juré, il m'a dit, Wallahi, cela fait plus de tant d'années. Il m'a mentionné un nombre d'années, je ne sais plus si c'est 10 ou 15 ou 20. Il m'a dit, Wallahi, je n'ai jamais loupé une prière en son temps. Lorsque je suis au travail et que vient le temps de la prière, je sors mon tapis, je vais dans un coin et je prie. Je lui dis, subhanallah, alors pourquoi tu leur dis ça? Il m'a répondu, c'est pour ne pas les faire fuir. Wallah musta'an. Donc vous voyez que ces gens, ils sont prêts à mentir au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour ramener les gens à eux, wal'iyadhu billah. De qu'il faut prendre garde à ces imams de l'égarement. Prendre garde à ces gens qui cherchent à réunir les gens autour d'eux, même si c'est sur le faux. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prescrit la prière en des temps déterminés et il n'est en aucun cas permis de retarder la prière de son temps sans excuse. Et parmi les excuses qui permettent de réunir certaines prières, comme le dhuhr avec l'asr et réunir le maghreb avec l'aïcha, il y a par exemple l'excuse du voyage. Lorsque la personne est en voyage, il lui est permis de réunir le dhuhr avec l'asr et le maghreb avec l'aïcha. Également pour le malade qui a des difficultés à prier, chaque prière en son temps. Il peut réunir ses prières de cette manière. Et celui qui a cette excuse, alors dans ce cas, le temps de ces deux prières qu'il va réunir, il englobera les temps des deux prières. C'est-à-dire que le temps du dhuhr et de l'asr, il commencera du début du dhuhr jusqu'à la fin du temps de l'asr. Durant tout ce temps, il lui est permis de réunir les deux prières. Et le temps d'El Maghreb et l'Aïcha, réunis ensemble, il commencera du coucher du soleil jusqu'au milieu de la nuit. Et comment calculer le milieu de la nuit? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Tu calcules le temps du milieu de la nuit en comptabilisant le nombre d'heures qu'il y a entre le Maghreb et le Fajr. Par exemple, supposons que le Maghreb est à 17h et que le Fajr est à 6h du matin. Combien y a-t-il d'heures? De 17h à 24h, à minuit, il y a 7h. De minuit à 6h, il y a 6h. Cela fait en tout 13h. Donc si tu divises ce temps en deux, cela fait 6h30. Tu rajoutes donc 6h30 au temps du Maghreb, ce qui va te donner 23h30. Donc à 23h30, ce sera le milieu de la nuit dans ce cas, et le temps d'Al-Aïcha terminera à ce moment-là. Donc le milieu de la nuit, ce n'est pas minuit, mais il se calcule de la manière que l'on vient de mentionner. Il ne faut donc pas négliger cette prière et l'accomplir en son temps. Et malheureusement aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens affiliés à l'islam, ils tombent dans ce grand péché qui est le délaissement de la prière. Et nombre de savants, parmi les gens de science, ont statué de la mécréance de celui qui délaisse la prière, même s'il reconnaît qu'elle est obligatoire. Même s'il dit « je sais qu'elle est obligatoire, mais il ne la fait pas, il la délaisse volontairement », nombre de savants ont statué de sa mécréance. Quant à celui qui renie son obligation, c'est un mécréant à l'unanimité. Même s'il prie. S'il prie et qu'il dit « la prière n'est pas obligatoire, si je veux je la fais, et si je veux je la délaisse », celui-ci c'est un mécréant à l'unanimité des gens de science. Ensuite le shaykh, rahimahullah ta'ala, il a dit « وَدَلِيلُ الْأَوْقَاتِ قَوْلُهُ تَعَالَى أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا » Et la preuve des temps est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens rapprochés, accomplit la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Donc le shaykh rahimahullah ta'ala, il a mentionné ce verset car il indique les temps de prière. Du déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Ceci englobe le dhuhr, al-asr, al-maghrib et al-isha. Et la lecture de l'aube, c'est-à-dire la prière del fajr. Et la prière del fajr, elle a été appelée Qur'an, car dans celle-ci, on récite plus de Qur'an que dans les autres prières. Donc ce verset, c'est une indication des temps de prière. Quant aux détails des temps, ils ont été clarifiés dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à travers les hadiths comme ceux que l'on a mentionnés. Et ceci, c'est un argument contre ceux qui dénigrent la sunna, prétendant que la source de la législation serait uniquement le Coran en dehors de la sunna. Et ceci est un égarement évident. Au contraire, le Coran et la sunna, ce sont les deux sources sûres de la législation. Et il est impossible de se contenter du Coran sans la sunna. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de suivre la sunna, comme on l'a vu dans d'autres cours. Ensuite, l'auteur, il dit, rahimahullah, « Ash-shartu thamin istiqbalu al-qibla » La huitième condition est le fait de s'orienter vers la qibla, c'est-à-dire en direction de la Kaaba. Il dit, rahimahullah, « Wad-dalilu qawluhu ta'ala » قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens rapprochés. Certes, nous te voyons tourner ton visage. Il s'adresse ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, nous te voyons tourner ton visage en tous sens dans le ciel. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souhaitait prier en direction de la Kaaba. Nous te faisons donc t'orienter vers une direction qui te plaît. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطَرًا Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Et ce qui est visé par le visage ici, c'est la face de l'homme, c'est-à-dire le devant de la personne, et pas seulement le visage. Donc le fait de s'orienter vers la Qibla, c'est une condition de la prière. Et la manière de t'orienter vers la Qibla, elle diffère selon l'endroit où tu te trouves. Si tu es à l'intérieur de la mosquée sacrée, à Mecca, et que tu vois la Kaaba de tes yeux, alors tu dois y faire face, et ceci est obligatoire. Sinon la prière n'est pas valide. Si tu es à Mecca, mais que tu n'es pas dans la mosquée, tu ne vois pas la Kaaba, tu es par exemple dans un autre quartier, à Mecca, alors l'obligation est de t'orienter en direction du masjid, le plus précisément possible. Et pas obligatoirement, exactement en direction de la Kaaba. Mais la direction du masjid, elle suffit. Et pour ceux qui sont en dehors de Mecca, dans les différents endroits du monde, alors l'obligation est de s'orienter dans la direction. Et ce n'est pas obligatoire d'être pile en direction de la Kaaba ou de la mosquée sacrée. Mais tu fais des efforts, au mieux que tu peux, pour te rapprocher de la direction. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith authentique, ce qui est entre l'Est et l'Ouest est une Qibla. Donc il a dit cela alors qu'il se trouvait où ? À Médine. Entre l'Est et l'Ouest, c'est une Qibla. Et pour nous, c'est entre le Nord et le Sud, approximativement. Donc le décalage léger de la Kaaba, il ne nuit pas à la validité de la prière. Mais l'essentiel est de faire au mieux pour être en direction de la mosquée sacrée. Et ce n'est pas obligatoire d'utiliser les moyens modernes pour trouver la Qibla. Mais tu peux utiliser les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, comme le soleil ou les étoiles, pour ceux qui connaissent cela. En effet, tu peux connaître la Qibla selon la position du soleil et également en t'aidant de certaines étoiles. Je me rappelle lorsque nous étions au Yémen, une nuit, notre cheikh Fahd al-Adani, rahimahullah ta'ala, il nous avait montré un groupe d'étoiles qui avait la forme d'une flèche, subhanallah. Il nous avait montré ces étoiles, subhanallah, toutes réunies, cela faisait comme une flèche. Et il nous avait dit que ces étoiles, elles indiquaient la Qibla. C'est-à-dire qu'à l'endroit où on se trouvait au Yémen, cette flèche, subhanallah, elle nous indiquait la direction de la Qibla. Et en effet, on a vérifié ces étoiles, nous indiquaient bien la Qibla. Donc ceci, ce sont des signes qui t'indiquent la direction de la mosquée sacrée, qui te permettent de trouver la Qibla. Et c'est de l'exagération ce que font certaines personnes avec les moyens modernes qui tracent un trait de l'endroit où ils se trouvent ou de l'endroit de la mosquée jusqu'à la Kaaba. Il dit dans cette mosquée, il y a un léger décalage ou autre chose que cela. Mais si la mosquée a été construite en direction de la Qibla, à travers les signes comme les étoiles, après vérification de personnes de confiance et qui ont les connaissances à ce sujet, alors il n'est pas nécessaire d'accomplir ce genre de choses. Car la direction est suffisante tant que le décalage n'est pas important. Et si la personne est en voyage et qu'elle ne sait pas comment trouver la Qibla, alors elle fait des efforts du mieux qu'elle peut pour prier orientée vers la Qibla. Et si par erreur, elle prie dans une autre direction, ou dans une direction erronée. Par exemple, tu t'es arrêté durant un voyage, tu as fait des efforts pour trouver la Qibla, tu as prié, mais après, en passant par cet endroit un autre jour, ou alors, une autre personne arrive, une fois que tu as fini la prière, un autre voyageur, il a par exemple une boussole, et tu te rends compte que tu n'as pas prié dans la bonne direction. Alors quel est le jugement de cette prière ? La réponse est que cette prière est valide à condition que tu aies fait tout ton possible pour trouver la Qibla. Mais si tu n'as pas fait tout ton possible, que tu n'as fait aucun effort, alors dans ce cas-là, les savants ont mentionné que la prière est invalide. Par exemple, une personne qui est en ville, il y a des gens à proximité, elle peut interroger au sujet des directions. Ou alors tu es chez quelqu'un, ou dans un hôtel ou autre. Il t'est possible de demander la direction dans ce cas-là. Donc il est obligatoire dans ces situations de te renseigner et de faire au mieux pour connaître la Qibla. Mais si après avoir fait tous tes efforts, tu te trompes, alors ta prière est valide, incha'Allah ta'ala. Quant à la prière surérogatoire du voyageur sur sa monture, il est permis pour lui de l'accomplir en toute direction pendant le voyage. C'est-à-dire lorsque tu es en avion, en bus ou en voiture, il t'est permis d'accomplir des prières surérogatoires, même si tu n'es pas en direction de la Qibla. Et le mieux, c'est de faire takbirat al-ihram, le takbir de sacralisation en direction de la Qibla, puis ensuite de continuer ta prière en quelque direction que ce soit. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit « Ash-shartu at-tasi' an-niyya wa mahalluha al-qalb wa at-talaffuzu biha bid'a » La neuvième condition de la prière, c'est l'intention. Et elle se trouve dans le cœur, et la prononcer est une innovation. La niyya, l'intention, certains savants l'ont considérée comme une condition de la prière, du fait qu'elle précède la prière. D'autres ont considéré que c'est un pilier de la prière, du fait qu'elle perdure tout au long de la prière. Mais qu'elle soit une condition ou un pilier, cela ne change pas. Il est obligatoire d'avoir l'intention pour faire la prière. Et il nous dit le shaykh, rahimahullah, elle se trouve dans le cœur. C'est-à-dire que l'intention, comme on l'a dit, lorsqu'on en a parlé lors de l'explication des conditions des ablutions, elle désigne la ferme volonté d'accomplir une chose. Et cette volonté, elle se trouve dans le cœur. Lorsqu'entre le temps de la prière du dhuhr et que tu te lèves pour l'accomplir, c'est que tu as l'intention de faire la prière du dhuhr. Et ainsi de suite pour les autres prières. Et il dit, rahimahullah, la prononcer est une innovation. Comme le font certaines personnes qui disent « Oh Allah, je prie pour toi la prière du dhuhr, tel jour, en tel endroit » ou autre chose qu'ils prononcent, qui font partie des innovations et sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala n'a révélé aucune preuve. Il n'est rapporté ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de un seul de ses compagnons radiallahu ta'ala anhum, que l'un d'entre eux ait prononcé l'intention avant la prière. Ceci est une innovation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit « dans le hadith rapporté par Aïcha, quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors son œuvre est rejetée. Ceci n'est pas légiféré. De même que prononcer l'intention en ton fort intérieur n'est pas légiféré. Comme on a dit, l'intention, c'est la ferme volonté d'accomplir une chose. À partir du moment où tu t'es levé, que tu t'es préparé pour cette prière, c'est que tu as l'intention de faire cette prière. Il n'y a pas besoin que tu te dises dans ta tête « Je suis en train d'accomplir la prière du Dhuhr ». Car les actes que tu as faits, ils indiquent que tu allais faire cette prière. Si quelqu'un te demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Qu'est-ce que tu vas lui répondre ? Tu lui dis « Je vais prier le Dhuhr ». Donc c'est que tu as l'intention de faire cette prière. Même si quelqu'un te voit, il va savoir que tu vas faire cette prière. Car il sait que c'est l'heure de la prière du Dhuhr. Donc elle doit être prononcée ni par la langue, ni même en ton fort intérieur. Mais l'intention, c'est la ferme volonté d'accomplir une chose. Et à ce sujet, je tiens à signaler une erreur qui se trouve dans certaines traductions du livre de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, intitulé « Ad-Durus al-Muhimma », les leçons importantes, ou leçons importantes pour toute la communauté. On trouve dans certaines traductions de ce livre qu'au moment de mentionner l'intention parmi les conditions de la prière, le traducteur a noté « évoquer l'intention ». Alors que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit tout simplement « an-niyya », l'intention. Et lui, il a noté « évoquer l'intention ». Et ceci est une erreur, car le mot « évoquer », il peut vouloir dire « faire mention de l'intention ». Et ceci, comme on a dit, c'est une innovation. Il ne faut pas prononcer l'intention. Et ceci nous montre l'importance que le traducteur réunisse en plus de la connaissance de la langue arabe et de la langue vers laquelle il traduit, également la connaissance religieuse des sujets qu'il est en train de traduire. Il ne convient pas à une personne, même s'il connaît parfaitement la langue arabe et la langue française, de s'aventurer à traduire des textes religieux au sujet desquels il n'a aucune connaissance. Car ceci peut mener à ce genre d'erreur. Évoquer l'intention. Alors que le cheikh, rahimahullah ta'ala, il a dit « niyya ». Il lui suffisait de noter l'intention. Mais il a rajouté ce mot qui peut soutenir cette innovation accomplie par certaines personnes. Wallahu al-musta'an. Le cheikh, rahimahullah ta'ala, il dit « وَالدَّلِيلُ حَدِيثِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى ». La preuve est le hadith, les œuvres ne valent que par leurs intentions et chacun sera récompensé en fonction de ce dont il a eu l'intention. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Donc ce hadith, il nous indique que les œuvres elles ne valent que par leurs intentions. C'est-à-dire que toute œuvre elle est accompagnée de son intention. Lorsque tu pries, tu distingues de par ton intention entre la prière obligatoire et la prière surérogatoire. Tu distingues entre la prière de Dhuhr et la prière de l'Asr. Innama al-a'malu bin-niyyat. Les œuvres ne valent que par leurs intentions. Et ceci est l'intention qui est visée dans les livres de jurisprudence. Car l'intention, elle est de deux sortes. Il y a l'intention de l'œuvre que tu accomplis, c'est-à-dire quelle œuvre es-tu en train d'accomplir? Es-tu en train de prier de Dhuhr ou al-Asr? Es-tu en train de faire une prière surérogatoire ou une prière obligatoire, et ainsi de suite. Ceci est l'intention de l'œuvre. Quelle œuvre es-tu en train d'accomplir? Mais il y a une autre intention, qui elle est traitée dans les livres de croyance. Et cette intention, c'est l'intention qui indique pour qui tu accomplis cette œuvre. C'est l'ikhlas, le fait que tu recherches par cette œuvre le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et son agrément à travers cette prière. Et c'est ce qui est visé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Wa innama li kulli imri'in ma nawa ». Et chacun sera récompensé en fonction de son intention. C'est-à-dire que dans la première partie du hadith, il nous indique l'intention de l'œuvre. L'œuvre, elle ne peut être valide qu'avec son intention. Et dans la deuxième partie du hadith, il nous indique la deuxième type d'intention, qui est pour qui tu accomplis l'œuvre. Est-ce que tu l'accomplis pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors pour obtenir les éloges des gens? Est-ce que tu l'accomplis sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou simplement pour satisfaire tes parents? Et d'autres choses parmi les intentions qui sont mauvaises et qui corrompent les œuvres. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. On a donc terminé en ce qui concerne les conditions de la prière et on commencera, incha'Allah ta'ala, dans la prochaine assise, les piliers de la prière. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous, au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
وجزاكم الله خيرا.